que j'ai sauté sur une comparaison. Je vous disais que Newman est intéressant quand on le compare aussi à d'autres philosophes qui ne sont pas de la même école que lui. La comparaison avec Kant. Vous avez déjà fait un peu de philosophie, vous avez fait du Kant un peu ou pas du tout? Bon, pour Kant, pour pouvoir connaître quelque chose, s'il vous plaît. Pour pouvoir connaître quelque chose, il faut deux éléments. Il faut d'un côté l'intuition, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, un objet que l'on rencontre, et il faut un concept, hein, il faut une notion qui nous permette de désigner, de reconnaître cet objet qui vient à notre rencontre. De la rencontre du concept ou de la composition du concept et de l'intuition naît la connaissance pour Kant. Bien, il en fait une règle quasiment absolue, je vous renvoie à la critique de la raison pure, et qui, en dépit du fait qu'elle vient de lui, et c'est pas le problème, est incontestable. Un concept sans intuition, c'est un concept vide. Un concept sans intuition, c'est un concept vide. Et une intuition sans concept, c'est une intuition aveugle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui vient devant nous, on ne voit pas, on ne sait pas. Bien. Alors, dans l'expérience que l'on fait ordinairement, nous avons toujours tantôt des concepts à disposition pour savoir ce qui nous arrive, ce qui vient devant nous, et puis tantôt, l'intuition, elle, pose moins de questions, pose même pas de questions sur le plan sensible. Alors, qu'en est-il évidemment dans le domaine de la connaissance religieuse? Parce que dans le domaine de la connaissance religieuse, il y a excès de concepts, c'est-à-dire qu'il y a excès de notions. La révélation nous est transmise par le biais, il y a trois modalités, je vous l'ai dit, les trois prières, doctrine et manière de vivre, donc exemple donné, donc la sainteté. Néanmoins, ce dont parle et la doctrine et la liturgie et la sainteté ne nous apparaît pas aux yeux. Donc, il y a excès de concepts, excès de signes sur l'intuition qui est à l'origine. Et il peut arriver aussi que l'intuition, elle, donc l'expérience que l'on fait, déborde tous les concepts à disposition pour que l'on puisse la décrire, pour qu'on puisse tout simplement la voir. Ce qui veut dire, dans la perspective de Kant, qui a été développée ensuite, surtout au XXe siècle, dans certaines écoles, et je passe, il n'y a pas de réalité brute. Toute réalité est un composé de données et de significations. Quand on voit un objet, on voit l'objet, mais on voit la signification de l'objet aussi. Dans le cas de la révélation, les apôtres, par exemple, voyaient le Christ poser certains actes, prononcer certaines paroles, avoir certaines manières d'être, et plus encore, se métamorphoser devant eux. Je vous renvoie à la transfiguration, par exemple. Exemple paradigmatique. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Il ne faut pas dire trop vite, l'Esprit Saint les illuminait. Oui, mais toujours ils étaient illuminés, mais simplement ils s'en rendaient compte après. Toujours a posteriori, qui découvrent que le Christ a fait ceci, que le Christ a dit cela, parce que leur cœur était endurci, etc. Bon, donc il leur manque des concepts pour voir. Ces concepts, ils vont leur être donnés. Dans le cas du baptême du Christ, c'est la voix du Père. Dans le cas d'Emmaüs, c'est le Christ qui apparaît et qui dit ce qui s'est passé. Donc le concept vient d'ailleurs. Il nous est donné d'ailleurs et il éclaire l'intuition qui, sans lui, était aveugle. Alors, ça, c'est comment on peut interpréter la révélation aujourd'hui en restant dans les cadres de Kant, de la philosophie moderne, et en travaillant tantôt sur l'absence de concept, tantôt sur l'absence d'intuition. Eh bien, chez Newman, puisque vous avez une composition à peu près similaire, vous avez à peu près la même logique à l'œuvre dans la composition intellect et imagination. Puisque je vous ai dit que l'imagination c'était une intuition au deuxième degré, elle occupe alors quasiment la même position dans l'épistémologie de Newman, donc sa théorie de la connaissance, que celle de l'intuition chez Kant. Donc il faut intellect et imagination pour voir. Il faut l'intellect et l'imagination pour connaître. Alors, à la différence de Kant, peut-être d'une manière plus rapide que celle de Kant, je ne sais pas, Newman va faire appel très vite à une réponse existentielle. Pour qu'alors, non seulement, dit-il, l'imagination qui fonctionne comme une intuition nous permet de connaître, mais plus encore l'imagination qui fonctionne comme une intuition nous poussant à agir, nous poussant à agir, cet agir va contribuer à nous faire, entre guillemets, comprendre ce qui nous arrive, ce qui est là devant nous. Bien. C'était juste parce que, je trouve que c'est éclairant, je ne sais pas si ça vous a éclairé, mais ça montre en tout cas la pertinence de Newman, puisque, par exemple, en phénoménologie, la composition concept et intuition, c'est ce qui est utilisé pour expliciter, élucider le phénomène suprême, absolu, suprême, qu'est la révélation. Bien, alors, impression, je reviens rapidement à impression pour terminer avant de passer à imagination. Donc on a vu une première caractéristique temporelle. Il y a un décalage entre l'impression et puis son analyse et son explicitation et sa formulation dans des dogmes. Alors, la seconde caractéristique, mais elle est à peu près liée à ce que je viens de vous dire, elle est de nature, je mets le mot entre guillemets, phénoménologique. C'est-à-dire que quelque chose se phénoménalise, quelque chose va apparaître à la vue, à la conscience. Phénoménon. Newman affirme que les dogmes, puisqu'on est dans un référent religieux, j'y reste, Newman affirme que les dogmes n'ajoutent rien à l'image totale donnée à l'origine. On va le lire, vous allez voir. Il déploie ou il déplie, le verbe est important, cette image ou cette impression originaire. Donc il ne la double pas. Ils peuvent aussi bien lui faire écran, en revanche. Mais encore une fois, ça va être une question de regard. Ce n'est pas les dogmes qui font écran, c'est le regard qui ne les voit pas de manière adéquate. La raison vient précisément de ce qu'ils sont appréhendés, entre guillemets, de l'extérieur, nous dit Newman, à partir de la proposition. Alors qu'il convient de les appréhender, nous dit Newman, de l'intérieur. C'est-à-dire à partir de l'image, de l'impression originaire, qui seule leur confère sens et intelligibilité. Vous retrouvez ce principe, entre guillemets, d'indexation des énoncés formels à l'intuition, l'impression, l'expérience dont ils ont jailli. Citation 12. Bien que l'esprit chrétien déduise une série de déclarations dogmatiques, il l'a toujours fait non pas à partir de ces déclarations prises en elles-mêmes comme des propositions logiques, mais comme étant lui-même, à savoir l'esprit, illuminé et comme habité par cette impression sacrée qui existe avec elle, ces déclarations. Impression qui agit comme un principe régulateur, toujours présent sur le raisonnement et sans laquelle personne n'a aucune garantie à son raisonnement. Donc, le critère qui va dirimer, distinguer, discriminer entre la constitution d'une formule doctrinale fidèle à l'impression originaire de celles qui ne sont pas fidèles, autrement dit, déclaration des hérétiques, tout ce qu'on veut, elle n'est pas indexée, elle ne repose pas sur le caractère logique de la formule doctrinale. Hein? Principe de non-contradiction, principe de raison suffisante, etc. etc. Bon, non. Même si, bien sûr, elle doit être logique, elle doit être intelligible. Il faut que cette formule renvoie de manière, j'allais dire, spéculaire, comme un miroir, et plus encore, comme une image, à cette impression originaire, à l'image qui l'a fait jaillir, l'image qui est le Christ, le Christ qui est en nous, le Christ qui est dans l'esprit du simple chrétien, l'esprit qui est dans l'esprit, le Christ qui est dans l'esprit du théologien. Mais c'est cette image-là qui est l'élément discriminant à la lumière duquel va s'opérer une distinction entre des formules doctrinales homogènes et des formules doctrinales hétérogènes, voire déviantes. Oui.
Est-ce que ça correspond au charisme certain de vérité qu'on a dans le discernement dogmatique qu'on a vu en théologie?
Vous avez vu en théologie scolastique. On peut faire une analogie. On peut faire une analogie au charisme. Newman simplifierait l'idée de charisme, de certitude, en vous disant simplement que c'est effectivement l'inhabitation. Alors c'est le charisme d'ordre du don, hein, du don de l'esprit, du don. Newman dirait que ce n'est pas les dons charismatiques, c'est le charisme, c'est la présence en nous du Christ, c'est la présence, l'inhabitation. Newman utilise toujours le mot indwelling, l'endemeurement de la Trinité en nous, qui illumine l'esprit. Il fait que, fidèle à cette vie de la Trinité en nous, nous ne pouvons pas errer. Nous ne devrions pas errer, parce qu'on peut toujours errer. Enfin, je veux dire, voilà. Ça ne garantit pas le caractère absolument logique de ce qu'on va dire, parce qu'encore une fois, on peut avoir raison, on a une raison, mais peut-être qu'on ne sait pas comment rendre raison. Vous comprenez ? Toujours cette distinction-là. Bien, alors. Alors, c'est pas le charisme. C'est sous fidei, c'est pas un charisme. Alors, oui, bah, sous fidei, Newman a un article entier sur la question du sous fidei, qui est le fait que nous sentons avec l'Église, il y a un sens de la foi, qui est un sentiment aussi de la foi. Et qui nous est donné par le baptême, qui nous est donné par le sacerdoce commun que nous avons, et qui nous est donné par le fait que nous avons le Christ en nous, et que c'est ce sens de la foi, c'est le sens aussi bien de l'Église que de la... Non pas tellement du sens de la présence du Christ en nous, mais de le sens que la présence du Christ en nous donne à notre adhésion. Donc, si l'image totale, dont les formules doctrinales monnaient les différents aspects, est vivante dans le cœur, si le Christ est vivant dans le cœur, si la Trinité est vivante, dans la même proportion, les dogmes seront vivants, et pour utiliser le terme forgé par Newman dans la grammaire de l'assentiment, ils seront donc réels. C'est-à-dire qu'en dépit de leur caractère notionnel, en dépit de leur caractère théorique, ils pourront provoquer ou évoquer ou rappeler dans l'esprit ou sur l'imagination l'image du Christ à condition de faire droit aux impressions, au double sens du terme, à savoir l'impression qu'ils produisent sur nous, et l'impression au sens d'un sceau presque déposé en nous, qui fait que la raison seule ne pourra pas être reconduite, accéder à la certitude qui est celle attachée, qui s'attache à l'acte de foi. Je tiens simplement que, si on veut dire les choses beaucoup plus simplement que ce que je viens de le faire maintenant, Newman fait tout simplement droit à l'émotion dans la démarche de la raison. Et encore une fois, sans les séparer et sans les opposer, et sans écraser l'un par l'autre. ne donne pas le primat à l'émotion contre la raison, ni la raison contre... Les deux, encore une fois, polarité, les deux vont ensemble. Là, je vous renvoie à un livre assez extraordinaire de Antonio Damasio, qui s'appelle « L'erreur de Descartes », et qui, dont les travaux en neurophysiologie, à la fin du XXe siècle, en 1990, un peu dans les années 90, ont révolutionné les théories de la connaissance en montrant que la raison pense avec les émotions. Et qu'un homme affecté d'une pathologie qui lui fait perdre ses émotions, c'est ce qu'il discute dans son livre, est complètement perdu, ne connaît pas, n'arrive pas à utiliser à bon escient, comme il le devrait, sa raison. Donc,
juste une parenthèse, je peux dénoncer quand même l'erreur de Damasio, c'est que Descartes
oui, mais
est un grand penseur
ben, non, mais...
de l'émotion et des passions.
Oui.
Avec
l'exercice
de la raison,
oui.
Notamment
la façon de l'âme. Oui, je sais.
Et voilà.
Non, c'est. Mais en fait, c'est un peu accidentel, sa critique de Descartes. Elle est à côté, elle vise mal, elle tombe à côté, mais le cœur de l'argument qui repose sur des faits établis en neurophysiologie et puis dans le domaine médical, il est indubitable chez Damasio. Pour ça que, oui, je sais. Il s'est fait assez critiquer pour ça, mais. À commencer par les Français. Mais c'est vrai que. Dans l'histoire du cartésianisme, la réception du cartésianisme, la pensée passive de Descartes, comme l'appelle quelqu'un, a moins été reçue que le cogito, et voilà, c'est pour ça. Donc le dernier Descartes, en fait, on attend qu'il soit complètement explicité, ça a commencé, il faut continuer. Mais d'une certaine manière, Newman commence là où Descartes s'est arrêté, on pourrait presque dire. Il y a dans ces journaux philosophiques inédits des discussions entre Newman et Descartes qui sont fascinantes, absolument fascinantes. Il y a un Newman cartésien qui vous savez qu'il y a un grand philosophe du 20e, un phénoménologue, il s'appelle Michel Henry, qui a développé un peu le cartésianisme dans ce sens-là, en faisant droit à la pensée passive. Moi, je joue souvent sur l'apport que John Henry pourrait avoir apporté à Michel Henry, mais j'essaierai peut-être de le montrer dans ma thèse. Bon, parenthèse. Quoi qu'il en soit, si on fait droit à l'émotion, on fait droit aussi... non pas à la rigueur de la démonstration rationnelle logique pour établir la vérité, mais on fait droit alors à un critère spécifique qui est celui de la vividness, de la vivacité des impressions comme critère de véracité. Non pas que l'émotion soit, et cette vivacité soit à distinguer et à opposer à la raison, comme si s'il fallait qu'une pensée soit d'emblée une pensée qui soit impressionnante. Mais néanmoins, pour Newman, en raison du fait qu'il fait droit aux impressions et aux émotions, on pourrait résumer sa position en disant qu'il n'y a pas de signification sans émotion spécifique. Dans la citation 13, il dit, je vous le signale simplement parce que les adjectifs connotent une idée d'impact et donc de densité d'impression produite par des affirmations plutôt que d'autres. Certaines affirmations sont plus importantes que d'autres, nous dit Newman. Certaines doctrines impliquent des postulats plus larges et plus nombreux. Alors, c'est pas tout à fait là, mais enfin, on se rapproche de l'idée de vivacité ou de caractère ou de densité d'impressionnabilité de certaines notions par rapport à d'autres. Et encore une fois, là, Newman se retrouve dans le sillage de Hume, qui avait dit qu'auparavant, penser, c'est d'une certaine manière sentir. Donc, la métamorphose d'une appréhension notionnelle en appréhension réelle ou imaginative a donc pour condition de possibilité que l'on se rende capable de sentir. Sentir quoi? Cette image du Christ en nous, pour la voir. Et que doit-on écouter d'abord? Donc, la conscience. Pas d'accès à la vérité, sans rectitude de vie qui ouvre la raison à la lumière. C'est ça aussi, l'écoute de la conscience. Newman nous dit, citation 14, « Les hommes ne choisissent pas la lumière ou les ténèbres sans raison, mais par une raison instinctive qui est antérieure aux arguments et aux preuves. » Autrement dit, il y a une espèce de détermination foncière en nous, nous dit Newman, selon que l'on a vécu d'une manière ou d'une autre, qui fait qu'on va s'ouvrir ou non à la vérité. Bien. Retenez la fin de la phrase, qui est antérieure aux arguments et aux preuves, sur la base d'une foi qui aime. Retenez la question de l'amour. Bien. On a vu maintenant à peu près la gamme du concept d'impression et comment il joue dans l'épistémologie de Newman. On va arriver maintenant à l'imagination, à proprement parler. Pour que vous puissiez comprendre aussi bien le fonctionnement que le vocabulaire utilisé par Newman, on en a vu une partie, impression, maintenant on va voir imagination, il faut faire un pas en arrière et reparler de Hume. D'abord, une remarque, c'est que Newman ne donne pas de définition de l'imagination. S'il ne donne pas de définition d'imagination, c'est que la chose va de soi pour ses lecteurs. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quelqu'un a déjà, d'une certaine manière, théorisé l'imagination, défini l'imagination avant Newman en Angleterre. C'est David Hume, dont je vous ai déjà parlé. Alors, qu'est-ce que l'imagination pour Hume ? Ce n'est pas une faculté. Hein, qui serait posé à côté de la raison, à côté de la volonté, à côté de la mémoire. C'est un milieu. C'est le milieu dans lequel se forment les images en nous. C'est ça l'imagination chez Hume. Bien. Ça fonctionne comment ? Ça fonctionne comme ça. Vous avez le monde sensible qui provoque des impressions en vous. De ces impressions vont naître des images ou des idées. Hein, ou de, plutôt de ces images qui unifient la perception du monde sensible, pour Hume, vont apparaître ensuite dans un deuxième temps des idées qui vont vous permettre tantôt de décrire le monde, parce que les idées vont s'enchaîner les unes avec les autres, ou tout simplement de voir le monde. Les idées chez Hume, ce ne sont pas des entités, des choses intelligibles en nous, ce sont comme des fenêtres à travers lesquelles on voit les choses. Bien. Donc, retenez bien. L'imagination est un milieu. Ce n'est pas une faculté. Newman y revient très, très souvent. Et il le reprend de Hume. Ensuite, ce qui caractérise chez Hume, et on vient de le voir à l'instant, mais je le reprends pour qu'on puisse... Ça nous sert de transition. C'est que les idées doivent conserver, c'est l'idéal de Hume, le caractère de vivacité, de réalité, de vie, qui était celle des impressions dont elles dérivent. Et l'idéal de l'épistémologie de Newman, c'est que ces idées, qui sont aussi des images, puissent nous reconduire au plus près possible de l'impression originaire qu'ils ont vu naître. Bien. D'où le caractère de vivacité. Plus une idée, plus une image est proche de son origine, donc proche de la chose que vous avez, qui a été l'objet de l'expérience, et plus pour Hume, plus elle est vraie. Bien. Ça, c'est son épistémologie, très schématiquement résumée, mais enfin, c'est ça. Et c'est sur cette conception de l'imagination que Newman va s'appuyer pour déployer le rôle de l'imagination dans sa propre théorie de la connaissance. Oui.
Si pour l'impression est première à l'imagination.
Oui, l'impression est première. Vous avez. C'est simultané, si vous voulez. L'impression, c'est l'imagination, c'est le milieu. C'est le milieu sur lequel se déposent les impressions, où se font les impressions, où surgissent les impressions. Vous comprenez ? Mais le mode d'expression de ces impressions, ça va être une image ou une idée. Alors, on va jouer sur les deux mots. Hein, idea or image. Bien. Donc, voilà pour ce qu'est l'imagination telle que la reprend Newman. Il distingue deux fonctions de l'imagination. Classique, donc la première recouvre celle de l'impression, mais elle la précède chronologiquement. Hein. Sa fonction est de nature synthétique. Elle représente sous la forme d'une image les objets de l'intuition. L'intuition représente sous la forme d'une image les objets de l'intuition, le divers du sensible transmis par les sens. Je dis représente à défaut d'un terme plus précis et d'une détermination plus précise du rapport qu'entretient l'image intérieure avec la chose. On pourrait comparer l'imagination, encore une fois, ici, au schématisme chez Kant, c'est-à-dire cette espèce de laboratoire alchimique, cet art caché de la nature en nous, qui fait que le sensible devient intelligible. Bien. Je ferme la parenthèse. L'imagination imaginante, c'est aussi la mémoire. La mémoire fonctionne par le biais des images. La mémoire, c'est l'imagination quand elle nous rapporte des choses que nous avons vécues, quand elle nous restitue les images de notre passé, les impressions que nous avons ressenties, les paysages que nous avons contemplés, etc. Bien. Et son action, je reviens au début, produit donc une image synthétique du divers. L'imagination a donc une propriété, c'est d'unifier le divers sensible, ou les souvenirs, ou les éléments multiples des souvenirs qui nous parviennent. La seconde fonction de l'imagination, on pourrait l'appeler, Sanuman ne l'appelle pas ainsi, il ne l'appelle pas, parce qu'il ne définit pas cette fonction, je l'appelle, en la rapprochant de l'assentiment réel, une fonction réalisatrice ou réalisante. Donc, elle rend réel. Elle comprend deux strates. Alors, une strate implicite, Newman l'appelle passive impression, ou passive imagination, une imagination passive. Et puis une strate explicite, c'est le moment où ce qui a été reçu passivement est dégagé, une image est formée. Donc on a une première couche de l'imagination qui est la couche, j'en parlais en première partie, ce que j'appellerais la couche impressionnelle, radicalement passive de l'imagination, et puis une deuxième strate, plus active, qui est celle de la production de l'image. Alors quand je vous dis ça encore une fois, c'est des distinctions logiques, c'est pas des distinctions chronologiques, ça fonctionne en même temps. C'est comme ça. Newman écrit dans la citation 15, « Nous sommes capables, par une faculté créatrice, ou comme on pourrait l'appeler faculté de composition, de nous représenter les descriptions des choses que nous n'avons jamais rencontrées, et de former à partir de ces impressions passives, c'est pour ça que je vous ai donné cette citation, parce qu'on a le terme, que l'expérience a auparavant laissé sur nos esprits de nouvelles images. » Alors, quel est le statut de ces images? Il nous dit, elles sont des créations mentales, mais elles ne sont nullement des abstractions, et elles ne sont pas notionnelles. Bon, je passe. Ce n'est pas capital. À partir de là, Newman désigne par trois termes le produit de cette impression sur nous. Par le terme de image, par le terme d'impression et par le terme de idée. L'anglais ne fait que translittérer le grec, eidos, et on va voir la ressource de cette étymologie, puisque eidos peut être traduit tantôt par idée et tantôt par image. Donc à partir de l'idée, on pourrait dire que l'esprit conçoit, à partir de l'impression, pardon, l'esprit conçoit, ou l'imagination, l'esprit conçoit tantôt des idées, tantôt des images. Et donc il y a une solidarité de ces deux modalisations. Je vous ai dit, sa conception de l'imagination diffère relativement peu de celle de Hume. L'imagination, c'est un creuset, hein, le creuset, dans lequel les choses, things, nous dit Newman, perçues par les sens, se déposent. Elles se prolongent en nous, d'une certaine manière, comme leur ombre. Voilà pourquoi il est difficile de qualifier les images par le thème de représentation. Les choses se présentent en nous dans le milieu ou l'élément de l'imagination. D'où le caractère de choses que leur attribue Newman. L'imagination implicite les reçoit. L'imagination explicite dégage une image synthétique. Mais parce que la chose est traduite par une image et non par une notion, elle conserve la teneur de réalité, autrement dit de vie. Ça, c'est le propre de l'image par rapport à l'idée. propriété de vie qui s'attache aux choses que nous percevons et qui provoque toute la gamme des émotions variées associées à leur rencontre. C'est en ce sens-là que je vous parlais d'une intuition au deuxième degré. Ça, c'est la force de l'image. La citation 16, ce qui est dans un certain degré matière d'expérience, ce qui est présenté à l'imagination, les affections, la dévotion, la vie spirituelle du chrétien repose sur un assentiment réel, ce qui tient lieu de choses, pas de notions seulement. Newman écrit encore, les images ont la puissance du concret sur les affections et les passions, et par leur biais, elles deviennent opératoires, opératives. Autrement dit, à la différence des notions, les images reconduisent à l'impression originaire, dont elles dérivent, choses perçues, souvenirs, émotions. Elles acquièrent le statut d'une intuition comme impression, tandis que les notions, propositions, énoncés, concepts, éloignent de l'expérience, dont elles dérivent pourtant elles aussi. Mais encore une fois, il faut faire attention à ne pas séparer imagination et raison comme s'il s'agissait de deux modes de pensée dialectique, je vous l'ai déjà dit. Si Newman veut redonner sa place à l'imagination dans la nature humaine, davantage que Hume, Newman s'attache à maintenir en équilibre le rôle respectif et de l'imagination et de la raison dans la connaissance. Dans le fond, pour Newman, on pourrait formuler la chose suivante. L'esprit oscille constamment entre deux tendances, ou deux tentations. Celle de privilégier tout ce qui est de l'ordre notionnel, ou de privilégier exclusivement ce qui est de l'ordre du real, de l'imaginatif. Le propre de la tendance notionnelle, ça va être, entre guillemets, donc la tendance à privilégier l'idée, au sens notionnel du terme, théorique, c'est de faire que cette idée, progressivement, devienne une idole spéculative. C'est à ce moment-là, en fait, que les énoncés peuvent devenir faire écran. C'est à ce moment-là que, par un basculement, parce que la rupture est consommée entre ces deux pôles de l'esprit, imagination et intellect, les énoncés n'apparaissent plus comme, dans leur fonction iconique, mais ils apparaissent dans leur caractère de proposition logique uniquement, et ils ne peuvent pas d'eux-mêmes, sans le secours de l'imagination, reconduire à cette impression dont il sourde. Bien. Par ailleurs, le propre des énoncés, davantage les énoncés spéculatifs que les énoncés doctrinaux, les énoncés donc de la philosophie, c'est le marquer, si vous voulez, le moment où le regard de l'esprit, le moment d'arrêt du regard de l'esprit en direction de ce qu'il peut percevoir de plus grand, de concevoir de plus grand. Pas un arrêt sur image, mais il y a un arrêt sur représentation, un arrêt sur concept. Le moment où l'esprit ne peut plus penser au-delà d'une certaine limite, là jaillit ce que j'appellerais la transformation de l'idée en idole. Il ne faut pas prendre le mot idole au sens négatif du terme, simplement c'est une délimitation épistémologique, qui est le moment maximum, l'étendue, le rayon maximum de notre raisonnement possible. D'accord ? Bien. Mais l'esprit peut privilégier une autre tendance, qui va être celle de privilégier exclusivement alors l'image et tout ce qui ressort de l'image et tout ce qui ressort de l'imagination. Et alors, dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que j'allais dire, l'image va vous en mettre plein la vue. C'est-à-dire que l'image a un côté saturant, l'image a un côté non analytique, l'image a un côté total. Quand l'image s'impose à vous, elle a un caractère presque totalitaire. Et donc, il faut prendre de la distance par rapport à l'image pour pouvoir alors en rendre compte, tantôt la relativiser, tantôt la déplier. Elle a un côté, elle se donne entièrement. Hein, vous pouvez toujours voir un aspect plutôt qu'un autre, mais néanmoins, la possibilité de l'image, c'est de vous donner une vue totale. À la différence des idées qui sont toujours composées, vous comprenez bien. Alors, le regard de l'esprit, d'une certaine manière, et c'est la tendance, quand on sépare intellect et imagination, la tendance, j'allais dire, imaginale, ça va être justement d'être complètement fasciné. Fasciné par l'image, qui elle aussi, alors, s'institue comme idole. Mais sous un autre registre, non pas une idole conceptuelle, mais une idole figurée, une idole représentée, et c'est celle à laquelle, c'est celle d'ailleurs qu'on connaît le plus, parce que c'est celle à laquelle on associe le mot idole, l'idole des divinités, de ce que vous voulez, puis les idoles courent les rues aujourd'hui. On n'arrête pas, on fabrique des idoles à tour de bras aujourd'hui. Donc, l'esprit, et c'est un peu ce que Newman avait en vue, aussi entre idole et distance. Entre idole et distance. Newman nous dit, il faut, pour pouvoir voir en vérité l'image, sans tomber sous la fascination de l'image, sa dimension totalitaire, et on va de même pour les grandes idéologies, hein, pas les philosophes, mais les idéologies, il faut une distance. Il faut une mise à distance. Cette mise à distance, elle est, selon Newman, elle est opérée par ce jeu organique, symphonique, entre imagination et intellect, entre pensée notionnelle et pensée réelle. Que fait le pensée notionnelle ? Le pensée notionnelle analyse, généralise, universalise, formalise dans la logique, dans les propositions, dans le langage, l'impression originaire, d'accord ? Ou l'image. Donc il la rend communicable. Que fait l'image, l'imagination plus exactement? Elle compense l'effet de distance que peut provoquer l'intellect, le fonctionnement de l'intellect et de ses productions, parce que qui dit langage dit distance, dit discours sûr, comprenez? L'image, l'imagination va compenser la distance que crée l'exercice, l'utilisation, plus exactement, la constitution des énoncés qui empruntent toujours la voie du discours. Donc, Newman synthétise ou résume les effets de ces deux modes de pensée. Il nous dit que oui, il faudrait que je retrouve la citation, je l'avais noté quelque part. Oui, bon, peu importe. Oui, voilà, c'est ça. Prenez la citation 19. Je préfère que vous l'entendiez que je. La 19. Écoutez bien. Appréhender notionnellement, c'est avoir largeur d'esprit, mais être vague. Appréhender réellement, c'est être profond, mais être étroit d'esprit. Ce dernier cas est le principe conservateur de la connaissance. Le premier est le principe de son avancement. Sans l'appréhension de notions, nous serions toujours à tourner en rond autour d'un petit cercle de connaissances. Sans une ferme adhésion aux choses, nous nous perdrions dans des spéculations vagues. Et cependant, l'appréhension réelle précède l'appréhension notionnelle. D'accord ? Donc, vous voyez bien l'équilibre, hein, des deux. le jeu des deux. Phénomène de compensation, de rectification. Bien. Alors, sans le contrepoids de l'imagination, les notions demeurent abstraites, sans vie. Elles touchent l'intellect, nous dit Newman, mais elles ne touchent pas le cœur. Au sens de thumos, qui doit être touché pour que la probabilité, devienne certitude. Donc il faut que la notion soit descendue jusqu'au cœur, pour que la notion nous ait touché existentiellement, pour qu'alors ce qui était certitude théorique devienne acquiert la propriété du réel, devienne aussi vrai que, que le réel que nous touchons. Newman prend l'exemple d'une formulation la plus abstraite et la plus haute, la plus auguste des vérités concevables, nous dit-il, c'est la citation 17, si vous voulez bien la lire avec moi. Il écrit « Il y a un Dieu. Quand cette proposition est appréhendée réellement, elle devient avec force l'objet d'une adhésion énergique, laquelle provoque une révolution dans l'esprit. Mais quand elle est tenue simplement pour une notion, elle ne requiert rien, sinon une acceptation froide et sans effet, bien qu'elle puisse être tenue ainsi de manière inconditionnelle. Tel est le caractère de l'assentiment d'une multitude, dont l'imagination n'a pas été illuminée, ni le cœur enflammé, ni la conduite affectée par la plus auguste des vérités concevables. » Vous voyez la transformation. La notion ne change pas, l'énoncé ne change pas. C'est le rapport avec l'énoncé qui est changé. C'est la modalité du regard qui est changée, qui va faire passer un énoncé notionnel qu'on tient à distance, parce qu'on privilégie le mode discursif, et c'est seulement en faisant droit au rôle de l'imagination, qu'alors cet énoncé, dit-il, la plus auguste des vérités concevables, mais vous pouvez généraliser ce cas d'énoncé, devient réel. Il devient réel parce que le cœur est touché. Il devient réel parce que alors le cœur ne le prenait pas au sens sentimental du terme ou rousseauiste, prenez-le au sens de Pascal. Un cœur intelligent, un cœur qui pense, et qui obéit, alors ça c'est Pascal, mais Newman s'est un peu préparé, qui obéit à une logique autre que la logique de l'entendement. Citation 18, « Le cœur est communément touché, non par la raison, mais par l'imagination, par le moyen d'impression directe, par le témoignage des faits et des événements, par l'histoire, par des descriptions. Les personnes nous influencent, les voix nous commandent, les regards nous séduisent, les faits nous enflamment. La plupart des hommes vivront et mourront pour un dogme. Personne ne deviendra martyr pour une conclusion. Personne, je l'affirme, ne donnera sa vie pour ses propres productions logiques. On donne sa vie pour des réalités. » Ben, on va devoir arrêter parce que c'est 11h-5. À quelle heure est la messe? À 11h? À 11h15. Ah bon, alors, je continue, d'accord. Ok, très bien. Alors, comment se passe cette transformation? Qu'est-ce qui, dans le domaine... quelle discipline ou quelle matière faut-il donner à l'esprit pour que l'imagination puisse à nouveau s'exercer, soit prise en compte et compenser l'effet de la raison, l'effet de la raison seule, j'allais dire. Alors, on n'a pas le temps de voir, malheureusement, ce que Newman déplie et développe dans l'un de ses grands livres, L'idée d'université, je vous y renvoie, notamment la sixième conférence de ce livre. Néanmoins, quelques mots, et on finira là-dessus avec la citation de Virgile. Pour Newman, il n'y a que les humanités. Les humanités, c'est-à-dire tout ce corpus littéraire, poétique, théâtral, rhétorique, qui peut apprendre à l'homme à vivre comme un homme, qui peut ouvrir dans l'homme ce qui est proprement de l'humanité, et qui peut faire droit au rôle, à la fonction de l'imagination. Pourquoi ? Parce que ces œuvres sont des œuvres d'imagination. Donc c'est un peu circulaire comme démonstration de Newman, mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que l'œuvre d'imagination qui ouvre l'imagination, qui sollicite l'imagination. On va lire pour terminer cette matinée ce qui est sans doute il est connu, mais c'est un très très beau passage, et surtout il va résumer tout ce que nous avons vu jusqu'ici, à savoir le rôle que peut produire l'effet que produit d'abord une lecture reçue notionnellement, et puis ensuite la condition qui fait que cette lecture, cette réception notionnelle devient réelle. Quels sont les critères, les ingrédients, les étapes. C'est la 20e citation. Elle servira de transition avant de passer à la deuxième partie du cours cet après-midi. Elle est extraite de la grammaire de l'assentiment. Je la lis avec vous. Considérons également à quel point les jeunes gens et les personnes plus âgées sont affectées de manière différente par les paroles de quelques auteurs classiques, tels Homère ou Horace. Des passages qui, pour un jeune garçon, ne sont que des lieux communs rhétoriques, ni meilleurs ni pires qu'une centaine d'autres, que n'importe quel écrivain avisé produit, en sondant son cœur, qu'il pense fort subtil et imite, ainsi le pense-t-il avec succès, dans sa propre métrique très fluide. À la longue, ces lieux communs lui reviennent lorsque de longues années ont passé, après qu'il a fait l'expérience de la vie, et le transpercent par leur triste gravité et leur frappante exactitude, comme s'ils ne les avaient jamais connus auparavant. Alors, il en vient à comprendre comment il se fait que ces images, la naissance de quelques singuliers matins ou soirs lors d'une fête ionienne ou au milieu des collines des Sabines, ont perduré de génération en génération depuis des milliers d'années, exerçant leur puissance sur l'esprit et un charme que la littérature générale de sa propre époque, malgré ses qualités évidentes, est totalement incapable d'égaler. Peut-être est-ce la raison de l'opinion que se faisait de Virgile le Moyen-Âge, le traitant comme un prophète ou un magicien. Ses mots et ses phrases simples, ses pathétiques demi-lignes, exprimant telle la voix de la nature elle-même, cette douleur et cette lassitude, et cependant l'espoir de choses meilleures, ce dont font l'expérience ses enfants en tout temps. Bien. Alors arrêtons-nous rapidement sur cette page. On retrouve tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Peut-être que vous en êtes rendu compte. Alors d'abord, je vais décortiquer avec vous une proposition. Une proposition, on va dire, notionnelle. Une formulation. Les paroles de quelque auteur classique. « The words of some classic author », nous dit Newman. Premièrement, une proposition, donc. Ensuite, une lecture qui est notionnelle, d'accord ? Pour un jeune garçon, ce ne sont que des lieux communs rhétoriques. Ensuite, le passage à une lecture réelle. Ces lieux communs rhétoriques, tout d'un coup, le transpercent. Donc, il a subi une impression, il la ressent, et il est touché. Ensuite, les deux conditions du passage d'une lecture notionnelle à une lecture réelle. Premièrement, le temps. Lorsque de longues années ont passé, après qu'il a fait l'expérience de la vie, nous dit Newman. Et ensuite, l'émotion ressentie. Leur triste gravité et leur frappante exactitude. Enfin, le lien entre imagination et expérience originelle, d'abord l'imagination, alors il vient à comprendre comment il se fait que ces images, la naissance de quelques singuliers matins ou soirs lors d'une fête ionienne ou au milieu des collines des Sabines, ont perduré de génération en génération depuis des milliers d'années, exerçant leur puissance sur l'esprit et un charme que la littérature générale de sa propre époque, malgré ses qualités évidentes, est totalement incapable d'égaler. Donc y a une espèce de reconduction à l'expérience qui a vu naître ces vers de Virgile. Puis ensuite, comment on pourrait dire ? Oui, mais ça redouble ce que je vous ai dit sur la reconduction à l'expérience, mais ça fait rien. La reconduction à l'expérience via une impression spécifique. Pas seulement l'expérience originelle telle qu'elle est imaginée, mais l'impression originelle telle qu'elle est alors sentie en même temps qu'imaginée, mais sentie d'abord. Ces mots et ces phrases simples, ces pathétiques demi-lignes, expriment la voix de la nature elle-même, cette douleur et cette lassitude, et cependant l'espoir des choses meilleures, ce dont font l'expérience ces enfants en tout temps. D'accord ? Bien. Alors, on voit que si l'imagination rend réelles ces lignes poétiques, le résultat n'est pas automatique. Le résultat n'est pas automatique. Il y a une condition du passage. Outre la mise en branle de l'imagination via les impressions, il faut d'abord que le lecteur expérimente quelque chose de la voix de la nature que le poème véhicule. D'accord ? Deuxièmement, qu'il se soit disposé à entendre cette voix. Aux yeux de Newman, l'enseignement des humanités, littérature, poésie, théâtre, musique, tout ce que vous voulez, remplit cette fonction propédeutique. Seulement les humanités nous apprennent à vivre comme des hommes. L'imaginaire, le produit de l'imagination, cristallisé dans ses œuvres, ouvre l'homme à son humanité dans son intégralité, imagination et intellect et sentiment et cœur. Avec le temps, facteur décisif, l'expérience de la vie, nous dit Newman, les sentiments exprimés dans ses œuvres, la voix de la nature, délivreront leur sens. Mais avec le temps, on ne peut pas connaître n'importe quoi, n'importe quand. L'Ecclésiaste nous l'a appris déjà, il y a un temps pour tout. Autrement dit, sans cette éducation spécifique, les humanités, l'homme ne disposera pas de notions ou de concepts pour voir ce qu'il vivra ensuite au cours de sa vie. Je reviens sur la composition, hein, concept, intuition. Mais au moment où il prend connaissance de cet héritage culturel, dans sa jeunesse, dans lequel s'est comme sédimenté l'expérience de l'humanité, cette expression de la vie réelle, drame, souffrance, joie, amour, désir, et qui est pourtant ce qui est le plus propre à l'homme, toute cette expérience se présente d'abord comme des énoncés notionnels. Pour que la vie que ces œuvres traduisent deviennent réelles, il faudra que le lecteur vive. Qu'il vive sa vie. Pour que la vie que ces œuvres traduisent devienne réelle, il faudra le temps de la vie. C'est-à-dire qu'il connaisse dans sa chair la gamme des affects qui jusque-là n'avaient pour lui d'existence que sur le papier. Ici, à la différence du mode de connaissance requis par les sciences, essentiellement notionnelles, abstraites, celui induit par l'assentiment réel, parce qu'il reconduit à la vie, exprimée dans des œuvres, implique nécessairement un facteur temporel. Les idéalités mathématiques, et je parle en présence d'un connaisseur, n'ont pas de temps. L'intellection est instantané. L'apprentissage d'une matière peut prendre du temps, mais l'intellection est instantanée. Donc l'assentiment implique nécessairement un facteur temporel. Tout ne peut pas être réalisé à n'importe quel âge, ni instantanément. Seule la vie traversée apprend ce que c'est que de vivre. On pourrait dire là, et je fais un parallèle non plus avec Kant, mais avec un philosophe du XXe, Martin Heidegger, on pourrait dire que la vie, le fait d'exister, possède pour Newman un caractère herméneutique implicite. Elle déplie le sens de l'existence, mais a posteriori. Donc vous voyez que sans la voix des œuvres d'imagination, ce que nous vivons comme hommes, ce que nous vivrons, ce que nous avons vécu, ne nous apparaît pas. Notre, entre guillemets, intuition est aveugle. Il faut cette voix venue de l'expérience des hommes, stratifiée, sédimentée, accumulée et léguée dans les humanités, pour que nous accédions à ce qui nous est le plus propre et qui pourtant ne nous est pas accessible sans elle. L'imagination est donc absolument nécessaire. Une anthropologie sans prise en compte de l'imagination, me semble-t-il, à la lumière de Newman, est une mutilation. Peut-être dit, oui.
Le sujet, c'est l'imagination, et ce passage, quand même, vous pouvez voir ce qui est le bénéfice de l'âge. Et vous permet de sortir d'une sorte de jeunisme en temps. C'est-à-dire que ça dépend d'instant, dans l'expérience de la vie, que vous pouvez toucher à la fraîcheur même des grandes œuvres poétiques. Parce que sinon, sans ça, vous voyez, ça reste quelque chose de formel, d'extérieur, mais il faut traverser la vie pour être sensible à la vie qu'il y a dans ces œuvres. Vous voyez, ça vous laisse un espoir, parce que vous êtes en train de quitter progressivement, imperceptiblement votre jeunesse, et vous entrez dans la vieillesse comme moi. Et ça vous fait voir que, en fait, c'est beau. C'est ça qui est beau, et c'est ça qui va vous mettre en contact avec ce qu'il y a de plus vivant et de plus fort.
Voilà. Bon, j'arrête là pour ce matin, pour qu'on ait le temps de décompresser pour passer au Saint-Mystère. Et on se retrouve à 14h cet après-midi. Merci.